Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle chaque matin de l'actu jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est férié et c'est donc un épisode très spécial qui va être consacré qu'à un seul sujet. Oui, j'ai envie de dire que ça n'arrive que très rarement, voire pas du tout, sauf dans l'édition du samedi. Pourquoi ? Alors déjà, c'est férié. J'ai donc épluché la nouvelle formule de JV Le Mag et donc je vous en parle dans cette édition vraiment spéciale. Et donc comme ça va être très long, j'ai envie de vous dire, on attaque tout de suite. JV Le Mag sort donc une nouvelle Formule 1, c'est le numéro 52, qui est sorti là il y a une petite semaine. Une nouvelle Formule, alors JV Le Mag, pour ceux qui me suivent et qui suivent l'émission, on en avait parlé d'ailleurs lors d'une grande revue de presse JV consacrée à la presse JV, justement, où j'avais fait part un petit peu de mes déceptions sur ce magazine que j'achetais énormément au début, et pour de diverses raisons, sur lesquelles je ne vais pas revenir ce matin, j'avais arrêté d'acheter le magazine tout simplement. Donc, j'avais arrêté de l'acheter. Et là, c'est vrai que nouvelle formule oblige, j'ai eu envie de voir un peu ce qu'il en était pour pouvoir vous rapporter un petit peu tout ça ce matin. C'est donc chose faite, hein, j'ai bien fait mes devoirs. Ce week-end, j'ai épluché en long, en large et en travers JV Le Mag, hein, nouvelle formule. Et donc, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce magazine qui, je le sais, à les faveurs de beaucoup d'entre vous. Je sais que c'est un magazine qui est en général assez aimé. Quelque chose qui mettra de toute façon tout le monde d'accord, c'est cette couverture, hein, avec en accroche donc le jeu vidéo est-il trop violent. C'est le dossier central de ce numéro. Ce détournement d'Orange Mécanique, hein, version Mario, est assez bien trouvé. Et vraiment, voilà, on ne peut pas dire que la couverture est fadasse. Non, elle claque sa race. Vraiment, la couverture est sublime. Ça, aucun souci là-dessus. Donc, il faut savoir aussi que cette nouvelle formule s'accompagne d'une augmentation du prix. Le magazine coûte désormais 6,50€. Alors, tout ceci est expliqué dans l'édito de Kevin Bitterlin, qui nous dit qu'effectivement, cette nouvelle formule s'accompagne d'une hausse de prix. Il dit, je cite, « Nous n'avons pas fait ça de gaieté de cœur, il s'agit simplement de l'une de nos réponses à la crise traversée par la presse, chose que nous évoquions dans l'édito du numéro 50. » Alors, la crise de la presse, Prestalis, etc. Ça aussi, on en a pas mal parlé. Enfin, vous savez que le secteur passe une phase vraiment très compliquée qui va tuer beaucoup de petits. Et donc, voilà, cette hausse de prix, à la limite, ça, on peut le comprendre. J'en ai vu certains sur les réseaux sociaux râler sur le sujet. Ça là-dessus, je peux tout à fait comprendre la décision du magazine. Un peu plus haut, dans le même édito, on nous promet, je cite à nouveau, « Cette cure de jouvence, hein, donc de la nouvelle formule, passe par un lifting de nombreuses pages, ainsi que par l'intégration d'une nouvelle rubrique It's Alive, qui sera chargée de parler un peu plus de l'actualité du jeu vidéo. » Ça, on va y revenir. je vous en parlerai là dans quelques minutes. Bon, alors si je continue à dérouler le magazine, nous avons le billet d'humeur, hein, toujours par Kevin Bitterlin, qui nous dit « Oui, un jeu peut avoir 20 sur 20 ». Il revient sur les pseudo encore polémiques, hein, sur le net effectivement, où dès qu'un jeu se tape un 20 sur 20, là, en l'occurrence il prend l'exemple des notes dithyrambiques, hein, qui a récolté God of War, Dieu que j'ai hâte de le faire d'ailleurs, ceci est une parenthèse, mon anniversaire approchant, j'ai bien managé le truc, vous inquiétez pas, bref, voilà, donc là je suis tout à fait d'accord avec ce billet, effectivement un 20 sur 20, je vois pas ce qu'il y a de choquant, de toute façon, de base noter les jeux vidéo c'est complètement crétin, ça je fais partie de ceux qui n'aiment pas les notes. Mais voilà, c'est vrai qu'on sait que c'est une habitude, une marotte, quelque chose que les lecteurs aiment bien, et qu'un jeu est 20 sur 20, moi personnellement ça ne me choque pas, c'est bien aussi de marquer le coup quand un jeu exceptionnel se pointe là. Un peu plus loin, toujours par le même Kevin Bitterlin, on a un petit dossier sur ce qui s'est passé à la PAX, et plus précisément le festival Play Paris Powered by PAX, un dossier que j'ai trouvé très intéressant, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de suivre l'événement, y compris sur les réseaux sociaux, car vous savez que là je viens enfin de terminer une période de déménagement, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la nouvelle maison, voilà, donc j'ai pas eu le temps le temps de suivre tout ça. Et donc, c'est très très bien expliqué. On apprend notamment que, en off, en tout cas dans le salon, pour le premier jour, on parle de 2000 visiteurs au lieu des 10 000 qui étaient espérés. Donc, il y a tout un passage qui nous explique effectivement que au niveau de la fréquentation, c'est pas joujou, que beaucoup d'exposants, dont certains veulent se faire rembourser justement, donc des exposants, des indés qui présentaient leur jeu, sont venus, ont fait des kilomètres et ont été hyper déçus par le peu de monde. Alors, les avis divergent vraiment entre certains indés qui présentaient leur production, qui eux disaient que malgré tout leur jeu a été pas mal joué, et d'autres qui n'ont pas vu un pèlerin. Bon, voilà, ça se contredit un petit peu, mais on peut dire que il n'y a pas eu foule non plus au salon. D'ailleurs, si vous y avez participé, que ce soit en tant qu'exposant ou visiteur, j'aimerais bien avoir votre avis, soit sur le Discord ou sur le compte Twitter. Le dossier se conclut, Kevin nous dit: un salon idéal pour quiconque a envie d'essayer des jeux qu'il s'agisse de nouveautés ou de vieilleries, mais aussi un salon qui, après cette première édition aux allures de tour de chauffe grandeur nature, va devoir peaufiner sa formule et sa communication en vue de l'année prochaine, dans l'espoir que le public soit cette fois-ci au rendez-vous. Grosso merdo, il y a à boire et à manger, il y a du bon comme du moins bon. En même temps, c'était un premier jet, ça peut se comprendre, donc rien de catastrophique non plus. En tout cas, ce dossier était assez informatif et m'a permis de me plonger un peu dans l'ambiance de ce salon que je suivais du coin de l'œil. Donc ça, c'est un très bon point. Ensuite arrive la fameuse nouvelle rubrique It's Alive. Pour moi, cette rubrique, je vous le dis tout de suite, c'est une fausse bonne idée. Elle ne sert vraiment à rien, si ce n'est à remplir une page. Enfin, deux pages, plus précisément. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la rubrique est expliquée comme suit. Chaque mois, on met un petit coup de projecteur sur les jeux tout juste révélés. Donc, ils prennent les annonces les plus récentes et les mettent sur ces deux pages. Ça pourrait être dans les pages news. Donc j'ai pas forcément compris l'utilité de cette rubrique, si ce n'est de faire un petit effet d'annonce, pour moi qui retombe très vite, parce que là donc on nous parle de Death Garden, de NBA Playgrounds 2, de Castlevania Grimoire of Souls et de Dark Devotion. Les textes sont vraiment tout petits, ça a sûrement été écrit en bouclage de magazine, donc en soi, c'est pas vraiment une mauvaise idée, si vous voulez, mais en tant que nouvelle rubrique, ça, c'est ce qu'on a toujours connu dans certains magazines, c'est-à-dire les news de dernière minute. Là, pour une nouvelle formule, c'est la seule nouvelle rubrique, vraiment, si j'en crois, l'édito, et je trouve ça hyper décevant. Vraiment, très mauvais point pour cette rubrique qui ne sert vraiment pas à grand-chose. Ensuite, nous avons la rubrique portrait. Bon, ça, si je me souviens, on l'avait dans la précédente formule, en tout cas, car je tiens à préciser, je le répète en tout cas, comme je l'ai dit au début de cette chronique, je n'achetais plus le magazine depuis très longtemps. Donc là, je me base sur mes souvenirs. Peut-être que certaines choses paraîtront différentes pour vous, mais en tout cas, j'ai pas eu vraiment cette impression de changement. La rubrique portrait, qui revient sur 7, un créateur indé très intéressant. Donc ça existait déjà, les portraits, il me semble, avant. J'ai l'impression qu'au niveau de la mise en page, c'est à peu près pareil, peut-être avec quelques subtilités près. Mais ce n'est pas grave, puisque ce papier est très intéressant. Alors, vous savez, c'est le créateur indé qui se cache derrière Ghost of a Tale, le jeu avec la souris. Ce monsieur vient de l'animation, est passé vraiment chez les plus grands et a tout plaqué pour être dans le jeu vidéo. Son parcours est passionnant et je me suis vraiment régalé avec ce papier. Je peux pas vous dire mieux que ça. Donc ça, c'est à lire, c'est très intéressant. La rubrique tech à tech, pour moi, elle fait du remplissage, c'est-à-dire qu'on nous présente trois objets tech. C'est sympa, mais c'est pas ce que je viens chercher personnellement dans un magazine de jeux vidéo, mais ça, c'est quelque chose de tout à fait personnel, vraiment. Nous avons la rubrique crossover, la rubrique crash test. Donc ça, si vous êtes des habitués du magazine, je pense que vous les connaissez. Elles sont très sympathiques. La rubrique musique, etc. C'est très bien. L'interrogatoire porte sur Shadow of the Tomb Raider, donc le prochain Tomb Raider, là sur trois pages, avec trois encadrés. On nous explique donc le contexte, le pitch et les promesses de ce prochain Tomb Raider. Donc rien de bien nouveau à se mettre sous la quenotte là-dessus, si ce n'est que si vous n'avez pas suivi ça sur le net, c'est quand même toujours intéressant de lire ça. Donc voilà, c'est tout à fait honnête. On a toujours la rubrique agenda, elle qui n'a pas bougé. Le cahier, on arrive au cahier décodé, avec donc 4 papiers. Le dossier qui est mis en avant sur la couverture, le jeu vidéo est-il trop violent, notamment, qui là est vraiment le centre de ce numéro. Le jeu est-il trop violent ? C'est signé la rédaction. qui nous dit « On a décidé de mettre les pieds dans le plat et de se demander si, violent, les jeux ne l'étaient pas un peu trop. » Alors ce dossier se découpe en plusieurs parties. La première s'appelle « Born to be violent », hein. C'est écrit par Christophe Butlet, qui, dans son papier, a aussi convié Mathieu Triclot, un philosophe. Donc on nous dit dans ce papier qu'effectivement, quand les premiers jeux apparaissaient à l'université, hein, au début des années 60, ces derniers relèvent pour la plupart de la compétition. Dans Space War, par exemple, il est question d'un affrontement à la vie et à la mort entre deux vaisseaux spatiaux. Ça, c'est histoire de nous expliquer que dès le départ, l'histoire du jeu vidéo s'est construite sur le conflit, hein. Mais alors, qu'est-ce qui pousse le média, nous dit le magazine, à recourir à cette violence? Est-ce que parce que celle-ci fait vendre, et de fait... Est-ce qu'un Counter-Strike aurait eu le même succès si on avait tiré des billes de peinture? La réussite de Splatoon, hein, chez Nintendo semble en attester, mais il reste un exemple quasiment unique. Un peu plus loin, on nous dit que le média a aussi généralement tendance à mettre en scène des personnages qui se font justice eux-mêmes, à créer des mondes où la loi du talion fait foi, et plus généralement, à répondre à la violence par la violence. Donc cette première partie soulève certes vraiment des points très intéressants que je me suis moi-même posé très souvent, mais... Je sais pas comment vous dire, je trouve que ça va pas assez loin et qu'on s'attarde peut-être un peu trop sur l'aspect, justement, boue, c'est très violent, et je trouve que c'est pas assez développé, mais tout ceci est très personnel. Globalement, cette première partie est quand même très bien écrite et soulève des questions très intéressantes, c'est bien amené, l'angle de réflexion est tout à fait pertinent, il n'y a aucun problème là-dessus. Le deuxième volet de ce dossier se nomme « Et si la violence était nécessaire ?» Et là, c'est ce cher Kevin Bitterlin qui revient nous parler de ceci. Donc là, vous avez plusieurs jeux, en fait, cette partie, c'est toute une série d'encadrés, justement, où les jeux dits violents, là, on nous parle plus de la violence qui sert le propos d'un jeu, qu'elle soit psychologique, hein, cette violence, ou physique. Donc c'est assez intéressant, on nous parle de Hellblade, hein, Senua's Sacrifice, que voilà, qui est un des jeux que j'ai vraiment envie de faire, un des jeux de l'année dernière, hein. Si je me trompe pas, il me semble que c'était en 2017. On nous parle du Tomb Raider, hein, le reboot de 2013, qui effectivement était d'une violence, pour certains presque insoutenable, dès les premières minutes de jeu. On nous parle de GTA 4, des derniers Metal Gear Solid, de Silent Hill 2, le fabuleux Silent Hill 2, de Max Payne 3, que j'avais beaucoup aimé, Shadowhearts 2, le mythique Xenogears, on nous parle aussi de Legacy of Kain, Soul River, Devil May Cry, The Last of Us Part 2, le dernier trailer avait vraiment même posé débat, avait choqué pas mal de personnes, notamment cette scène au marteau, bref. Et on nous parle aussi de Final Fantasy X. Voilà, c'est désencadré, c'est très sympathique, ça va pas très très loin, mais ça permet de rappeler à nos bons souvenirs quand même quelques jeux qui sont totalement cultes, et dont le propos était certes violent, mais teinté d'une grande maturité, essayait quand même d'explorer des choses que la concurrence ne faisait pas forcément. Et justement, la troisième partie de ce dossier s'appelle « Violence abstraite », hein, c'est écrit par Yann François, et qui nous dit que parfois la violence n'est pas là où on la voit. Elle peut, hein, nous dit-il, se tapir dans une idée, un sentiment contrarié, une secousse mentale, et hanter nos esprits au-delà des écrans. Comme le rappelle Thomas Gaon, hein, ethnométhodologue, un spécialiste des pratiques ludiques et cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques, toute violence se définit par rapport à une norme. C'est l'idée de trop, motivée par l'envie de transgresser cette norme, qui elle-même varie d'une société ou d'une époque à l'autre. Le jeu vidéo reprend ce même principe de transgression, soit par la diffusion d'images choquantes, soit par un irrespect des conventions de jouabilité qui peuvent nous déstabiliser. Cette violence est d'autant plus forte qu'elle touche souvent à l'individualité. On m'agresse moi sur ma console ou mon PC dans mon intimité. On nous parle, hein, dans cette partie du dossier, notamment de Dark Souls 3, hein, dont la difficulté, hein, je cite, hein, « violente les joueurs comme une épreuve humiliante », de Silent Hill, hein, où la culpabilité du personnage sert de déstabilisation permanente de notre aventure. Alors, ils mettent Silent Hill, ils illustrent avec une image de Silent Hill 2. Donc là, le thème de la culpabilité est vraiment au centre de Silent Hill 2. Donc là, ils sont un petit peu gourés, c'est surtout le 2. Et The Last of Us, hein, où l'affection pour les personnages, je cite, hein, « pousse à légitimer la violence pour les aider à survivre ». On nous dit aussi, hein, dans cette même partie, que le jeu vidéo a sans doute profité du grand chantier opéré par la série télé moderne, hein, de son talent à imposer des personnages antipathiques, voire sociopathes, comme héros de fiction à l'identification forte. Un peu plus loin, on nous dit qu'il y va ainsi de certains chefs-d'œuvre comme Braid ou Shadow of the Colossus, qui, en nous mettant face à l'égoïsme de nos héros, se font la critique d'une violence légitimée au nom de l'héroïsme auquel le jeu nous a habitués pendant tant d'années. Questionner des sujets aussi graves que le fascisme d'État, comme dans Paper Please, la psychose comme dans Hellblade, la douleur de l'exil comme Enterre-moi mon amour, ou la dérédiction du couple, hein, comme dans Another Lost Phone ou Firewatch, nous, sans nous ménager ni nous prendre la main, mais en utilisant leur violence intérieure pour nous aider à y voir plus clair. Je vous le cache pas, pardon, c'est la partie du dossier donc, qui a été écrite hein, par Yann François que j'ai préférée. Je trouve que c'est celle qui, dans l'analyse, est la plus pertinente et va le plus loin. Et enfin, bien sûr, heureusement, évoque des jeux qui abordent la violence avec une grande maturité et avec finesse, justement. Donc, c'est terminé pour ce dossier sur la violence, qui globalement est quand même bien réalisé, ça je ne peux pas dire le contraire, mais je sais pas, pour moi il manque un petit quelque chose, il manque un petit truc, mais globalement c'est quand même assez bien écrit, voilà, les réflexions sont pertinentes, etc. Mais je trouve qu'il va pas assez loin, je saurais pas vous dire, mais c'est un sentiment que j'ai. Après nous avons la rubrique Mediarama, hein, où on parle de la fin de nos lives. Ensuite on revient sur un créateur, hein, Jérémy Thomas, qui est chef de projet. On a aussi un dossier qui là est assez sympa sur ce qui serait la déchéance en fait du MMORPG, hein, qui n'est plus en odeur de sainteté, en tout cas pour les succès grand public. Hein. C'est écrit par Sylvain Tastet qui nous dit « Nous sommes en 2018 et les joueurs n'aiment rien tant que de se faire parachuter en race campagne et crapahuter à travers plaine, zigzagant entre les balles de sniper invisibles. Face au succès de PUBG et aussi Fortnite, il faut décidément croire qu'aujourd'hui, rien ne vaut cet instant. » Où, derrière son écran, le joueur tendu comme une arbalète ignore encore si son guerrier en slip va oui ou non s'effondrer sous le plomb des bouches à feu avant de parvenir à s'abriter dans un refuge. Le monde est au Battle Royale. Il y a 12 ans, toute l'industrie rêvait d'avoir son World of Warcraft maison et des millions de joueurs prêts à payer rubis sur l'ongle une douzaine d'euros par mois. Les MMORPG AAA n'existent plus. Leur dernier représentant, qui se nomme Star Wars The Old Republic, Final Fantasy XIV ou The Elder Scrolls Online représentent certes des créations pharaoniques, mais sont avant tout des jeux sacrifiés, mis en chantier en d'autres temps et sortis longtemps après l'âge d'or du genre. Le dossier nous explique également que l'attachement communautaire est un trait commun à beaucoup de joueurs de MMORPG. Nombre d'entre eux restent connectés par habitude pour retrouver leur clan sur Skype, Mumble ou Discord. Mais surtout, les MMORPG sont aujourd'hui beaucoup plus portés sur le massivement multijoueur que sur le RPG. On nous dit un peu plus loin qu'en 2018, hein, dire à un développeur qu'il travaille sur un MMORPG est presque devenu une insulte. Rien que ça. L'expression est aussi has-been dans le milieu que les handspinners le sont dans les cours de récré. C'est quand même dur de lire ça. Le dossier se conclut en disant « Le MMORPG est mort, vive le jeu de rôle massivement multijoueur ». C'est une démonstration que fait ce dossier, puisque le genre n'est pas vraiment mort, mais a muté vers autre chose, et sur des expériences nouvelles, tout en gardant quand même des racines dans ce qu'a été le MMORPG. C'est un dossier très intéressant, sachant que moi je ne suis pas du tout MMO, hein, c'est vraiment, moi les jeux multi c'est pas du tout ma cam, et j'ai trouvé ça très bien écrit, donc bravo Sylvain Tastet. Après nous avons la rubrique critique, hein, où sont critiqués donc God of War, Dead in Vinland, Battletech, Master of Anima, Steel Knight, The Sword of Ditto, Frostpunk, Vandal, The Mooseman, Super Type, et un dossier sur Nintendo Labo. Donc God of War a été complètement encensé, il n'y a pas de souci. Donc la rubrique critique, c'est l'un des kayaks que j'aime le moins dans JV, j'y retrouve exactement le même, c'est-à-dire que certaines critiques déroulent certes une réflexion et des arguments qui sont, ma foi, fort bien cherchés, mais je ne sais pas, je me suis jamais fait, en fait, au cahier critique de JV Le Mag. Alors, je trouvais le ton un peu pédant il y a quelques temps de ça, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins, alors je ne sais pas s'il y a eu beaucoup, autant de changements que ça dans la rédaction. Je n'aime pas trop en fait leur cahier critique qui est vraiment rachitique. Alors je sais que c'est un luxe, hein, pour un magazine de se dire on va faire notre critique sur tel et tel jeu et tout le reste on s'en fout. Ça c'est assez couillu, hein, faut dire ce qui est. Il n'y a pas de souci, ça c'est depuis le début de l'histoire de JV Le Mag. Mais justement, c'est à part quelques critiques qui sont un petit peu conséquentes, le reste c'est vraiment expédié à la va-vite et je trouve qu'il y a un déséquilibre en fait, voilà, qui me gêne là-dedans. L'un des meilleurs papiers du magazine, c'est le test du Nintendo Labo par Sophie Krupa. Alors si je dis pas de bêtises, Il me semble que c'est aussi Force Rose, hein, dans le podcast ZQSD, et co-créatrice et co-animatrice aussi de l'excellent podcast ABCD Podcast, justement. Et donc, pour ce test de Nintendo Labo, ils ont fait appel à ce qu'ils appellent deux experts au sein d'une classe de CE1 de Paris. Et c'est assez... le dossier est vraiment super, puisque donc on a l'avis de la journaliste, mais aussi donc des gamins qui vraiment expliquent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et vu que Nintendo Labo est une expérience, je pense, hein, vraiment familiale, j'ai toujours dit que Nintendo avait fait très fort là-dessus. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment un angle qui est vraiment très très intéressant et fort bien réalisé. En conclusion, hein, on peut lire que le véritable intérêt de Nintendo Labo, je cite, hein, se situe peut-être dans ce qui n'est pas dans la boîte, outre les possibilités de customisation des Toy-Con, ou comment Nintendo compte prolonger l'attrait de ses jouets en encourageant les enfants à sortir feutres, stickers décoratifs et masking tape. On trouve dans le multi-kit une fonction destinée aux plus bricoleurs, donc l'atelier. Il s'agit tout simplement, ça vous le savez, je vous en avais parlé, d'un logiciel, hein, de programmation très simple permettant de créer ses propres Toy-Con, donc ses propres jouets, ses propres mouvements, etc., ses propres routines. Une vidéo explique déjà comment faire sa propre guitare avec trois paires d'élastiques. On imagine parfaitement les nerds du monde entier se pencher sur la question et on a hâte de voir quelle création vont émerger dans les mois à venir. Ça, je suis totalement d'accord. Voilà, donc on a l'avis des experts, avec les citations des gamins pour chaque mini-jeu, pour chaque construction prête à l'emploi, en tout cas de Nintendo Labo. Et ouais, bon, je trouve ça vraiment très pertinent, j'ai adoré ce passage. Après, on a la rubrique rejouer. Donc là, pareil, je vois pas trop de changements. Une rubrique que je n'aime pas du tout. Donc là, qui s'appelle 20 ans après, ça, je trouve qu'elle a pas changé. Donc là, qui revient sur mai 98, avec Gran Turismo, la sortie de Parasite, etc. C'est vraiment... c'est le rétro qu'on aime, pourtant, mais je sais pas. C'est dit, je trouve cette rubrique vraiment très superficielle, parfois avec des avis un petit peu à côté de la plaque, mais tout ça, ce n'est que mon propre avis. On a le Try Again, hein, qui revient sur Far Cry, donc très sympa, hein, de Thomas Rosiquet, qui revient sur le tout premier Far Cry, sur 3 pages. Hein. Ça, c'est assez intéressant, parce que ça nous remet dans le contexte de l'époque, et l'article nous démontre que le premier Far Cry, bah, avait fait parler de lui, mais pourtant était loin d'être exempt de tout défaut. Donc c'était très agréable à lire. De tout temps, donc on nous parle du tatouage, et on nous prend plein d'exemples de jeux avec des personnages tatoués. Donc ça paraît, c'est une rubrique que je n'aimais pas avant, que je n'aime toujours pas. On prend une thématique et on l'illustre avec plusieurs jeux. Très souvent, je me suis aperçu qu'il y avait des jeux vraiment majeurs dans ces thématiques qui étaient abordés, qui manquaient. Et puis même si les principaux jeux, en tout cas, sont là. Donc là, sur le tatouage, hein, on a du The Last Guardian, du Yakuza 3, du Left 4 Dead, du RE5, du FF7, bref, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, je trouve ça très superficiel et cette rubrique m'a toujours paru être de remplissage. On a la rubrique, hein, Director's Cut, hein, qui revient sur Monsieur Bennett Foddy, monsieur derrière le jeu Getting Over It. C'est une interview très intéressante à lire. Après, on a Vue Subjective qui revient sur Hellblade, Senua's Sacrifice. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire le contenu, puisque on nous annonce qu'il y a des spoilers. Et comme c'est un jeu que je compte faire, qui m'intéresse énormément, je n'ai pas lu ce passage. Sur l'histoire, on revient sur Haze, hein, ce FPS qui voulait révolutionner le genre. Donc ça, c'est très sympathique. Bon, ça, c'est pas non plus complètement foufou, mais enfin, c'est très sympa. Sur X page, bon, moi, je suis pas très FPS en même temps, donc ce genre d'article ne s'adresse peut-être pas effectivement aux personnes comme moi, mais j'ai appris quand même pas mal de petites choses. C'est écrit par Kevin Bitterlin, si je dis pas de bêtises, je vérifie, oui, c'est bien lui. Donc le monsieur écrit bien, donc ça, vraiment, ça passe tout seul, il n'y a pas de problème. Un peu plus loin, donc, on a la rubrique qui parle de cinéma, de séries, de DVD, etc., que je n'aime pas du tout, voilà. C'est quelques pages, et dans JV le Mag, j'ai jamais trop aimé, puisque j'étais quasiment systématiquement en désaccord avec les critiques. Et puis, on peut être en désaccord, hein. Ça, c'est pas un souci, mais je trouve qu'elle est superficielle, et j'achète pas un Mac de jeux vidéo pour ça. Mais tout ceci m'est complètement personnel, bien sûr. Donc, vous voyez que ce numéro est assez long ce matin, puisque je vous parle vraiment que du magazine. Et je me disais que ça pouvait être intéressant de vous en parler ce matin, puisqu'aujourd'hui c'est un jour férié, n'est-ce pas ? Donc je me suis dit, c'est l'occasion de faire un petit épisode spécial. Et j'avais vraiment envie d'éplucher JV le Mac, que j'ai énormément critiqué, vraiment toutes ces années, y compris dans l'émission. Et quitte à critiquer le nouveau numéro, je ne voulais pas qu'on me taxe vraiment de saccage facile, en ayant juste lu 2 pages et demie. Voilà, donc je voulais vraiment étayer un petit peu tout ça. Donc, Le verdict, c'est que je ne vois pas trop de différence avec le JV le Mac que je n'aimais pas trop avant. vraiment, cette nouvelle formule, je ne l'ai pas vue. Tout simple, j'ai pas vu cette nouvelle formule. Nouvelle formule, je ne vois pas. Alors oui, il y a un petit changement de maquette, très certainement, mais ça fait longtemps que j'ai pas ouvert mes anciens JV Le Mag, mais j'ai l'impression que c'est la même. Alors, c'est certainement pas la même, j'imagine, bien sûr, hein, c'est une nouvelle formule. Il n'y a pas non plus publicité mensongère. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu de différence. Voilà, vraiment, tout simplement. La rubrique, la nouvelle rubrique, hein, It's Alive, je vois pas. Je vois pas l'intérêt, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est une grosse déception. Ça manque de folie, ça manque vraiment de créativité. Quitte à faire une nouvelle formule, ça manque d'une nouvelle rubrique vraiment impactante, qui déroule vraiment un angle différent. Alors certes, ailleurs dans le magazine, et ça c'est le bon côté, il y a des papis qui sont excellents, justement, qui déroulent des thématiques qu'on voit pas forcément, en tout cas ailleurs, hein, dans la presse JV. Et ça, c'est tout à leur honneur. Il y a vraiment des papiers que j'ai adorés. La partie décodée est vraiment celle que je préfère, voilà. C'est, pour moi, c'est vraiment le cœur de JV Le Mag. Et c'est peut-être pour ça que je vais peut-être y revenir, finalement, très franchement. Parce que j'ai beaucoup aimé, même si je suis un peu dubitatif sur certaines choses, le dossier sur la violence dans le jeu vidéo, bon, était quand même très sympa. J'ai beaucoup aimé celui sur le MMORPG. Alors, je suis pas du tout MMO, mais j'ai trouvé vraiment que l'angle était très intéressant. Pareil, la fiche de perso, donc de Jérémy Thomas, chef de projet, très intéressant. Mais ça manque vraiment, pour moi, ça manque de panache, ça manque de prise de risque, ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que le marché est très frileux en ce moment. Ça, je veux bien le comprendre, mais avec l'augmentation de prix, je pense que le magazine aurait mérité d'avoir quelques rubriques vraiment qui dynamitent un peu tout ça. Pour résumer, je pense qu'il y avait moyen de faire de la nouveauté, de l'audace, tout en gardant le fil rouge, tout en gardant l'esprit JV Le Mag qui plaît en tout cas à ses lecteurs. Donc c'est un peu mi figue mi raisin cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a des très bons papiers. On ne peut pas retirer à JV Le Mag que les plumes sont quand même talentueuses. Même si par le passé il y a eu énormément de boulettes sur des sujets où ça m'avait un petit peu choqué, là globalement là, je trouve ce numéro assez maîtrisé, mais la mise en page, la maquette en tout cas, moi ne me plaît pas trop, et j'attendais en tout cas de cette nouvelle formule que la maquette soit beaucoup plus agréable, et je la trouve vraiment de plus en plus vieillotte, mais ça voilà, c'est juste mon avis. Satisfait par certains articles, mais globalement déçu par le manque de nouveautés et nouvelles formules qui, pour moi, n'en est vraiment pas une. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je vois le compteur est à une demi-heure, donc c'est une grosse émission. J'avais prévu de vous parler un petit peu d'autre chose, notamment de Kingdom Hearts 3, puisqu'il y a eu un événement presse ces derniers jours. Je vous en parlerai dans l'édition de demain, parce que là, je crois que j'ai été bien trop long, et il est très très tard, et j'ai tout ça à monter, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc j'espère que cet épisode un petit peu spécial, et comme je le disais, le fait que ce soit férié, à mon avis, il tombe bien, vous a plu. Est-ce que j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais que vous répondiez massivement s'il vous plaît, chers auditeurs, chères auditrices, sur le Twitter, hein, @revue de presse, j'y vais tout coller, sur mon compte perso, chez Bruno, ou sur le Discord, hein, vous avez le lien, tous les liens dans la description de l'émission. Êtes-vous lecteur de JV Le Mag? Si oui, est-ce que cette nouvelle formule vous a plu? Ou est-ce qu'elle vous a déçu? Si vous n'êtes pas lecteur de JV Le Mag, est-ce que vous avez envie de l'acheter? Ou troisièmement, est-ce que vous vous en tartinez royalement les miches? Bref, venez m'en parler. C'était un épisode un petit peu spécial ce matin, donc, et on se retrouve demain, hein, pour un épisode, j'ai envie de dire, plus traditionnel de la revue de presse JV. J'espère que vous serez à nouveau au rendez-vous. N'oubliez pas tous les replays qu'il y a eu ce week-end avec des sujets super intéressants, notamment sur le président de Nintendo, notamment sur le créateur de Nier Automata qui nous parle des différences entre les méthodes japonaises et occidentales. J'ai aussi un replay où je vous donne quelques infos sur le remake d'FF7. Un replay qui me tient vraiment à cœur, hein, où on parle de l'origine improbable du Street Pass de la DS et d'un jeu qui n'a jamais vu le jour, nommé Mario Motors. Alors si vous êtes fan de Nintendo, il y a énormément d'anecdotes là-dedans. Un replay aussi, on parle de Toshihiro Nagoshi, le bad boy de Sega, et papa, entre autres, hein, de la saga Yakuza. Vous avez la grande revue de presse JV également, qui dure 3 heures. Bref, vous savez tout ça, l'épisode du samedi sur le Tipeee pour les tipeurs, j'espère que vous l'avez récupéré. J'ai trop parlé, je vous dis donc à demain, je vous souhaite bon courage si vous travaillez en ce jour férié, reposez-vous bien si vous ne travaillez pas, et donc on se retrouve demain, et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez donc de ce nouveau JV Le Mag sur les réseaux sociaux. Allez, à demain, bye bye.